scientifique, c'est plutôt d'essayer de prendre cette occasion d'une exposition qui porte un regard sur l'art contemporain à travers des œuvres qui peuvent avoir trait à l'anthropologie. Donc, et c'est essayer de mettre en parallèle, de mettre en rapport ces deux domaines qui sont bien différents mais qui en même temps se rejoignent en plusieurs points. Donc, cette exposition, vous le savez en fait pour la plupart d'entre vous, hein, fait partie d'un cycle. Le cycle s'appelle L'homme nu. Nous en sommes ici au premier volet, qui s'appelle donc « Allure anthropomorphe ». Le second volet, qui ouvrira le 23 avril, concerne l'homme et son environnement, donc plutôt une idée de paysage et d'une certaine animalité. Et puis le troisième volet, qui aura lieu en octobre, concernera l'homme et son mode de vie. Donc l'idée d'un habitat, d'outils, d'objets rituels, voilà, tout ce genre de choses. Donc là, nous sommes vraiment dans le premier volet qui concerne l'homme et sa représentation. Donc nous sommes entourés plutôt de masques et de silhouettes. Donc voilà un petit peu pour recadrer les choses. Alors autour de moi, je vais vous présenter d'abord Annabelle Boissier, qui est ici et qui est anthropologue, cofondatrice du groupe de réflexion socio-anthropologie des arts plastiques dans les contextes périphériques à l'école des hautes études en sciences sociales. Son sujet de recherche actuel, et elle élabore pour l'instant sa thèse, c'est la pratique de l'art contemporain en Thaïlande. Et elle étudie le rapport global-local dans le cadre d'une reconnaissance artistique, précisément. Thomas Michelon, voilà, qui est à ma gauche, qui est attaché culturel et directeur adjoint de l'Institut français des Pays-Bas, qui est là pour m'accompagner dans la modération de ce débat. Et puis les artistes, bien sûr, Jean-Luc Moulin, France Curti, Didier Trenet et Bernard Walter. Voilà, donc il y a 4 artistes sur 8 en tout dans cette exposition. Ce que je vais faire pour le déroulé du débat, c'est d'abord essayer de remettre les choses dans un certain contexte. Comment j'ai traité l'invitation donc de la directrice Annie Agopian, comment les choses se sont mises en place, comment l'exposition est née. Et puis ensuite, je passerai un petit peu la main et la parole à Annabelle, qui a beaucoup de choses à nous dire sur la pratique anthropologique de l'art contemporain, précisément, et qui questionne le mode de production, la valeur du système relationnel dans lequel les artistes agissent. Et puis après, on va commencer le débat en posant un certain nombre de questions aux artistes sur certains points. Tout ça peut prendre la forme d'un dialogue assez rapidement avec le public, bien sûr. Donc, voilà. Donc l'histoire de l'exposition, et quelque part je profite de la présence d'Annabelle dans ce cadre-là pour exprimer aussi un petit peu comment naît une exposition. Donc l'invitation évidemment d'Annie était dans un contexte, c'est comme une commande finalement, avec un petit cahier des charges. Donc c'était un programme sur 3 volets, le cadre était l'hospitalité, donc quand même un thème bien particulier, des artistes quand même un peu reconnus, et 4/5 de français si possible. Mais ça c'est aussi quelque chose qui est en même temps intéressant, dans le sens où à travers des contraintes, comment on construit quelque chose. Et voilà. Et moi, commissaire française à l'étranger, je rentre aussi dans le contexte d'hospitalité, puisque je suis invitée dans mon pays quelque part. Voilà. Donc cette exposition est née de cette commande, avec effectivement ces contraintes et cahiers des charges qui contribuent réellement pour moi à la définition de ce programme. Et bon, bien sûr, une exposition par des œuvres rencontrées ici et là, et des choses qui formellement communiquent entre elles, c'est plutôt, avant tout, de toute façon, pour moi, une confrontation de formes dans un lieu particulier. Les premières œuvres que j'ai vues et qui m'ont donné l'idée de ce programme, c'est celle de Mathieu Mercier, que vous avez là, et celle de Sarkis. À partir de là, s'est construit quelque chose où je me suis dit, on peut peut-être aller un peu plus loin dans ce registre de forme. Et puis bon, bien sûr, il y a eu une recherche, les silhouettes de ces jeunes travestis derrière vous se sont imposées à moi, et je me suis dit qu'il fallait aussi considérer l'homme dans son ensemble et pas juste dans son visage. Et puis après, d'autres choses sont venues, d'autres artistes auxquels j'ai pensé plutôt pour le futur et qui ont vraiment fait en sorte que se sont construits ces trois volets. Depuis ces formes-là, découle un domaine plus global, l'anthropologie. Donc c'est réellement à partir des œuvres que quelque chose, qu'un sujet plus ou moins s'est formé. Et c'est comment, à partir d'un domaine d'études, aborder l'art contemporain. Donc, en dehors d'une certaine transdisciplinarité qui est toujours très en vue, très en vogue, etc., moi, il s'agissait plus d'aborder un domaine avec les yeux de l'autre. Et l'anthropologie, c'est une façon, pour moi, de relire les œuvres, certaines œuvres d'art contemporain, de les réinterpréter aussi. Et c'est quelque chose qui fait partie d'une démarche que j'ai déjà démarrée, entamée à travers des lectures aussi biaisées lors de précédentes expositions au travers de la botanique, de la photographie d'amateurs ou de la poésie. Donc chaque fois ces domaines, de même que l'anthropologie, pour moi sont abordés de manière amateur. Et ça, je l'assume entièrement, parce que je ne prétends pas embrasser un domaine, un sujet aussi éminent en quelques mois. Et malgré certaines lectures intéressées, ça reste totalement une perception furtive, spontanée, sensible, d'un sujet très important. Et bon, évidemment, c'est de l'anthropologie et les lectures m'ont guidée logiquement. J'ai envie de dire, sans me poser de questions instinctivement, vers Lévi-Strauss, auquel tout novice peut penser en premier lieu. Et donc, je me suis approprié un titre qui est l'homme nu, en fait, mais auquel je ne donne pas forcément la même signification. Donc, c'est une inspiration très, très libre d'une pensée qui, a priori, est plutôt dépassée aujourd'hui. Mais ça, c'est intéressant aussi, peut-être, d'en parler plus tard. Et bon, après, d'autres lectures sont venues ensuite, mais les lectures sont venues après le choix des œuvres, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui m'a influencée, ou en tout cas, c'était plus un nuage dans lequel j'ai pu continuer. Donc, voilà à peu près le cadre de ma recherche et de mon travail et de ce qu'on voit aujourd'hui ici. Donc, je vais peut-être passer la parole à Annabelle pour... peut-être définir un peu ce qui t'intéresse.
Ça, pour ouais. L'enregistrement, parce que sinon, il n'y aurait peut-être pas besoin. Bon, je suis un peu désarmée parce que je ne suis pas dans mon milieu. Hein. En tant qu'anthropologue, on n'a pas vraiment l'habitude de parler dans le cadre d'un débat touchant directement l'art contemporain et avec des artistes, et des commissaires et gens du monde de l'art. Mon travail, effectivement, porte sur l'art contemporain. L'art contemporain, pour moi, c'est plus un sujet, un objet, des individus qui agissent les uns avec les autres, essayent de produire peut-être des objets, mais pas seulement, de manière cohérente hein, et en collaboration. Mais c'est aussi, pour moi... un objet d'attention et d'étude qui permet d'aborder des questionnements qui sont peut-être un peu plus propres à l'anthropologie et en particulier le rapport qui est aujourd'hui très important à discuter de la relation au local et au global et la manière dont le global n'est pas seulement un élément qui va influencer et transformer les pratiques des individus au niveau local, mais que aussi les individus au niveau local ont une implication sur le système global. Et ça, la manière dont l'art contemporain est aujourd'hui structuré est extrêmement intéressant pour étudier ces relations entre local et global, enfin, ce qu'on a aussi appelé la théorie du système monde. Donc voilà, bon, c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant pour moi d'interagir avec Aurélie et d'avoir préparé ce débat avec elle. Bon, on est un peu désarmé à vouloir dire quelque chose de cohérent puisque finalement tout a été dit avant. c'est un peu difficile maintenant. Mais bon, ce qu'on avait aussi, lorsqu'on en discutait, ce qu'on avait aussi envie de dire, ce qui tenait à cœur, c'est de montrer que l'organisation d'une exposition, la production des œuvres, c'est quelque chose qui se produit en collectivité et qui se pense ensemble. Et c'est ça qui nous avait apparu important de souligner ici, que le fait de toujours essayer de présenter ces œuvres de manière, avec à chaque fois un regard spécifique, c'était ce qui était important. Et ce qui est aussi très important en anthropologie, c'est justement d'avoir cette capacité, on en parlait tout à l'heure, de percevoir que d'autres rapports sociaux développent des interactions qui sont portées par des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ont tout le temps le droit de citer. Donc aujourd'hui, on voit ces œuvres sous cet aspect, sous le regard d'Aurélie, qui s'est inspirée de l'anthropologie, et demain, on les verra autrement. On les a vues avant encore sous un autre regard. Et dans ce cadre-là, on rejoint énormément, je crois, des problématiques de l'anthropologie. Bon, l'objet n'était pas de donner une... je pense que l'objet, c'est plutôt de faire une discussion, de discuter ensemble, donc...
Est-ce que vous dites exactement la même chose? Est-ce que votre point de vue qui est d'Aurélie est similaire à celui d'Annabelle? En fait, si on reprend l'histoire de cette relation un peu ambiguë entre l'anthropologie et l'art, j'ai l'impression qu'il y a eu, dès les années 80, une sorte de, disons, de contamination réciproque. Les artistes se saisissant de certains protocoles anthropologiques pour réaliser des œuvres, je pense à Sharon Lockhart, je pense à d'autres artistes, Lothar Baumgarten en Allemagne par exemple. De l'autre côté, l'anthropologie, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais ça c'est peut-être à toi de nous répondre sur cette question-là, s'est inspiré progressivement du fait artistique, en tout cas du fait de l'art, et notamment de la construction de l'image proposée par l'art, pour, disons, modifier un peu la manière dont l'anthropologie devait s'adresser au monde ou devait aborder un sujet d'étude particulier. Je pense par exemple aux travaux de James Parris, qui a filmé et travaillé avec les Indiens Navajos pendant des années. Je pense à l'inclusion, donc pour résumer rapidement, en gros, c'était le fait de provoquer une sorte de rencontre entre une culture vernaculaire, celle des Indiens Navajos, et une dimension de l'image qui était proprement occidentale. En fait, c'était un choc de culture et de civilisation qui se produit à ce moment-là, provoqué par cet anthropologue qui demande aux Indiens Navajos de venir représenter leur propre univers mythique, mental, psychologique, etc., par l'intermédiaire d'une arme, ou en tout cas d'un outil qui était d'un champ culturel éloigné d'eux, puisque c'est champ. C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que dans la perception, je dirais, de ce nuage anthropologique qui servirait à sertir un peu les pièces de l'exposition, est-ce que l'on retrouve l'objet d'étude d'un anthropologue de l'art contemporain?
Non, bien sûr que non. Je pense qu'au niveau de l'anthropologie, la manière dont l'anthropologie est venue à s'intéresser aux productions artistiques, et en premier lieu aux productions artistiques non occidentales, n'est pas liée à l'art contemporain. Bien sûr que non. Au départ, pour l'anthropologie, il s'agissait de pouvoir reconnaître aux cultures qu'elles étudiaient la faculté de produire des œuvres d'art. On sait aussi que dans l'histoire, mais ça c'est aussi issu de notre propre histoire de l'art, la faculté d'une société à produire de l'art, c'était la faculté de cette société à être une société civilisée. Donc ça permettait, ce rapport à l'art a permis aussi à l'anthropologie de revenir sur ses précédents, et notamment les précédents évolutionnistes, des théories évolutionnistes. Donc ça permettait en fait de revenir sur toute une conception de l'anthropologie qui renvoyait les cultures autres à un passé historique amené à disparaître et qui était déjà disparu ici en Occident où nous avions la civilisation. Donc l'art a eu un peu est devenu intéressant en tant que production artistique pour l'anthropologie au moment où l'anthropologie et s'est questionnée elle-même sur le rapport qu'elle avait avec les cultures qu'elle étudiait, en cherchant bien sûr à sortir de la colonisation en fait. Donc effectivement, on est dans des rapports complètement différents, mais il n'empêche qu'en tant qu'anthropologue et Aurélie en tant que commissaire, nous avons beaucoup à partager afin de pouvoir, chacune de notre côté, pouvoir se poser de manière autre des questions qui sont les nôtres respectivement.
Peut-être qu'on pourrait demander à Franck et à Jean-Luc, en tout cas, leur première réaction sur cette incursion de l'anthropologie dans la perception de leur travail. Est-ce que ça vous semblait quelque chose qui était évident? Est-ce que c'était quelque chose qui est venu dans la discussion avec Aurélie? Comment, Franck, par exemple, tu articules les pièces que tu présentes derrière avec cette question?
Oui, donc c'est une. Je me suis pas vraiment posé de questions, à vrai dire, parce que c'est une dimension qui est vraiment dans mon travail, il me semble. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et bon, notamment pour ce travail-là, j'ai pas plus réagi sur ce domaine-là. Enfin, c'était un peu naturel pour moi.
Oui, c'est un peu naturel, d'autant plus que j'ai découvert, en fait, il y a peu de temps. Dans l'entretien avec justement dans le catalogue Before and After du Palais de Tokyo, tu dis j'essaie de réinvestir les choses en leur donnant une dimension anthropologique. Mm-hmm. J'ai trouvé ça hier soir totalement par hasard. Je me suis dit finalement il y a du juste. Un art qui ne renvoie qu'à lui-même devient en quelque sorte une entropie. On ne peut penser le micro à l'individu qu'en rapport avec le macro, c'est-à-dire révéler la part de chacun qui appartient au collectif et à l'inconscient collectif.
J'ai dit ça.
C'est même écrit. Même
oui, ouais. Non, mais restons-en à des choses plus simples. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup sur tout simplement ce qui m'entoure, avec des choses qui m'entourent, que je vois. Il y a une dimension comme ça première. Qui était sûrement de ma vie quotidienne et donc j'utilise quoi. Donc déjà c'est une base. Après quand je dis je sais plus ce que j'ai dit, révéler des choses, je sais plus.
Oui, révéler surtout révéler le micro à travers le macro.
Oui, ou le contraire, enfin.
Aussi.
Ouais. Oui, parce que je considère qu'il y a un certain niveau, il n'y a plus de niveau, si vous voulez. Je pense qu'on est comme ça. Si on pense les choses de cette façon-là, quoi. Et dans mon travail, je les pense comme ça. Je ne fais pas de hiérarchie. Un geste qui est équivalent à une production plus conséquente, une idée avec un concept. Un geste, une idée, un concept. Enfin, c'est comme ça. Quoi.
Encore une fois, ces œuvres qui sont là viennent de la flânerie qui est apparemment une pratique assez.
Ouais. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est un peu plus compliqué que ça.
Compliqué dans le sens où, en fait, c'est un travail d'étudiant que j'ai fait en 89, que j'ai laissé largement de côté. Et puis, comme toujours, un petit peu. C'est un peu la façon dont je travaille, quoi. À un moment, je ressors comme ça des choses. Il se trouvait que à ce moment-là, c'était au moment de l'ouverture du musée, hein, des arts premiers, du Quai Branly. Il y avait ça, il y avait. Je trouvais que c'était aussi une certaine. Je parle du contexte, hein, là, uniquement. Comment dire, un bon moment pour sortir ça aussi par rapport justement à ces questions de global et de local, mais à un point de vue aussi artistique. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation artistique, elle se nourrit aussi beaucoup de tout ça. Il y a beaucoup d'artistes africains, chinois, enfin, etc. Plus que jamais. Donc ça, et moi, ça m'intéressait aussi d'amener ça à ce moment-là. Et comme aussi, parce que quand j'avais pensé ces masques, pour moi, c'était avant tout, à l'époque, quand je les ai faits, c'était avant tout, il fallait voir d'une dimension post-cubiste, enfin, vous voyez, le signe, voilà. Pas post-cubiste, enfin, plutôt post-art moderne, quoi, voilà. Et c'était plutôt dans ces idées-là que j'ai commencé à travailler. C'était la récupération en 89, je parle. Et donc, voilà, et puis aujourd'hui, je les ai ressortis, ils sont apparus différemment, ils me sont apparus d'abord différemment.
De ton côté, Jean-Luc, tu me confiais ton rapport.
Mieux qu'il soit sur pied.
Ton rapport.
Moi, mon rapport, c'est celui d'un curieux. Tout à l'heure, on parlait d'amateur. Ce serait plutôt celui d'un curieux. C'est-à-dire que l'anthropologie, effectivement, je m'y suis intéressé plutôt pour le plaisir de la lecture et comme un promeneur, en fait, aussi. Donc je suis plutôt venu là en curieux, me dire qu'est-ce qu'on peut bien. Alors bon, vous avez évoqué tout à l'heure une part commune de l'anthropologie et du travail commissarial. Je me dis oui, a priori on est là pour changer, on est dans un rapport à la connaissance. Bon, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que connaître? Et à partir de là, que différents savoirs veuillent se mettre ensemble, se côtoyer, se frictionner, ça me paraît plutôt une bonne chose. Toujours plus inquiet, parce que je ne comprenais pas très bien l'intitulé même. Et on peut faire une anthropologie d'un groupe constitué en art contemporain? Parce que, je vous pose la question, parce qu'il me semble que... qu'on ne devient pas artiste, je veux dire que c'est... enfin, en tous les cas, c'est mon expérience. On finit artiste quand on ne peut pas faire autre chose. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'on peut effectivement catégoriser comme milieu, finalement, des choix par défaut, par défaut d'inscription sociale, j'entends. Hein? C'est-à-dire que l'artiste, c'est effectivement une identité. Mais c'est une identité que finalement on vous colle quand finalement vous ne pouvez pas être ni ingénieur, ni architecte, ni designer, ni communicant, ni toubib, ni anthropologue au bout du compte. Donc voilà, et ça me semblait...
anthropologue quand on peut pas être artiste.
Peut-être aussi, c'est arrivé, ou écrivain, quand on est anthropologue, quand on ne peut pas écrire. Maintenant, bon, connaître l'homme, oui. Donc moi, ça, c'est un rapport qui est permanent. Enfin, je veux dire, mais j'ai rarement en tête le mot, si ce n'est quand c'est Bruce Nauman qui le gueule, quoi. En trop, gueulé par Bruce Nauman, ça, j'ai ça en tête. Mais c'est pas un mot, une discipline qui m'habite usuellement. Hein, je suis désolé, mais qui... par contre, oui, je regarde les gens se promener. Alors, et je vais me promener aussi assez loin. Et donc, les questions de... Parce que, finalement, un artiste, ça produit des objets, a priori. Que ce soit des objets de pensée, des objets de langage, des objets... Alors, bon, je me disais, est-ce qu'on parle d'une anthropologie des objets d'art ou des producteurs d'objets?
Oui, juste ce que je voulais juste rajouter, je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais tout à l'heure tu parlais d'artistes qui ont, entre guillemets, utilisé l'anthropologie. Et en fait, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, il me semble, alors là je ne sais pas, il me semble qu'en connaissant un peu les quelques artistes qui sont là, et moi-même, c'est pas une préoccupation, enfin je veux dire, ça va de soi. À partir du moment où tu fais les choses, tu... et je pense que des artistes que Thomas a cité, bon, Baumgarten par exemple, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le, mais pour moi ça n'a jamais été anthropologique, c'est d'abord sociologique, et il est quand même un truc quoi, hein. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est un artiste qui à un moment s'est servi, qui est talentueux, hein, attention, mais qui s'est servi de, alors que je dirais que pour certains artistes, pour la plupart, mais bon, pour certains plus que pour d'autres, cette dimension anthropologique est inhérente et n'a même pas forcément. Moi, quand j'ai dit ça, voilà, bon, mais elle est naturelle, quoi.
Hein, voilà. Il faut se méfier du naturel, ceci. C'est pour ça qu'il y a des intellos qui réfléchissent.
Voilà. Ah, tu veux répondre peut-être ?
Oui,
je pense qu'il y avait une question, quand même. Bon, donc on travaille, touche pas directement les œuvres, ni même à la limite les artistes, mais un groupe d'individus qui travaillent ensemble. Les artistes sont aussi montrés dans un certain nombre de milieux, interagissent les uns avec les autres, avec les différents membres des mondes de l'art, et entre différents pays, et puis avec aussi, avec tout le reste aussi, pas seulement avec ça. Donc effectivement, c'est un travail anthropologique, c'est aussi un travail sociologique, bien entendu. C'est vrai que les artistes se sont beaucoup inspirés des protocoles, surtout sociologiques, je crois, plutôt qu'anthropologiques. J'ai aussi, moi aussi, du mal à me définir en tant qu'anthropologue, c'est une question aussi qui se pose, même mon propre travail, mais je pense que c'est la discipline dans son ensemble qui aujourd'hui se questionne et questionne son existence et son histoire, et aussi l'histoire qu'elle a fait porter aux autres, donc aux populations qui étaient l'objet de ses études. Leur présupposée disparition future, etc. Toutes ces choses sont aujourd'hui en discussion à nouveau. Bon, ça, c'était pour la question directe. Après, on peut, je peux continuer.
Bernard, we're talking about a relation, different relation to anthropology, and maybe we would be interested to know exactly what is your relation to anthropology. I mean, in maybe in this work, in maybe new work in general.
Yeah, I think nobody can negate anthropologic system or ideas, because we get this information in parts, and we had it in our past life, very important by colonialism systems and occupations from Europe to other cultures, and so you can't work without this influence from the consequence. What should that be? What you are doing for now, for the future, and so. It's a part, but I think system to watch other cultures is not anymore so important, because the influence from all cultures grows up more and more, and we are in a, I think, in a kind of hyper eclectic system now. Yeah, and the other one is we have no anymore the sense about the things, because we can transform all. Yeah. And the result to when everything comes to one conflict is everything is in the air, yeah, and it has to create new things, but we don't know what should that be. Yeah, and but this feeling is not a special feeling from society. I think it's a feeling from the society. I believe you see it all in all consequences from political statements and from the people and the consequence in by practic politic, yeah, and economic and so on and so on. And so we are do our own. We chatting, we playing, we thinking, we laughing about a lot, but in I think we have a good potential of frustration in this thing, and that's our thematic now. This frustration to can do a lot, but why? Yeah, and to which? And so we wait and we look and we do sometimes a little bit and to show, and we are very interested what we'll do the next one, and maybe you can answer or you can play again and so on this way.
But it would be interesting to know, I mean, because this work, which is exhibited just there, seems to have some kind of revendication in a way, and talking precisely.
This one.
Yeah, this one.
Yeah, okay. This one is also only an argument in this what I told now, and because it grows up. To do something with this old idea of to create a counterfeit head, a face, and to let it create by them by itself I want to do. Like nothing, yeah. But so I want to take it in a distance to me, so I store it to another place, and to store it in another place, I get this word aufheben. Also, it's a German word aufheben, it means to pick something from the bottom and bring it to a higher level. The next meaning is to store something by side or for next time, or the next one is to negate something, eine Regel aufheben oder eine Kontrakt aufheben means to negate the contract, yes, and that's playing only. And in the other way, it's not anymore in the size to look this object you want, maybe, and you have to do something, you have a risk, you can fall, but it's all only this playing to want a jam, it's storing in a special place, yeah, and you can fall, whatever. But it's only joking. This, but that's yeah. Okay.
So there would be from your side a kind of mise à distance from the cultural phenomenon of knowledge and storage of knowledges and the process of storing the knowledges about cultures or distance towards culture.
Yeah, but that is only a phenomenon about our economic to store something you don't know when you need this knowledge, yes? But that's only a potential thing to make something, The point is, if when you store something like anthropologic ideas or other systems or cultures, you say I negate it. I don't believe it not anymore in that. Yeah, because you are in this. Position to can do something with the other one and not in the other side. Mm-hmm. Okay.
Okay. En gros, il y a trois positions différentes. Il y a d'une part une sorte d'effet naturel du fait, je ne sais pas comment l'appeler finalement, parce qu'on commence à se perdre un peu dans le fait anthropologique finalement, peut-être. Le nuage anthropologique, c'est une belle image. Le fait qu'effectivement ça puisse être perçu comme un acte de conscience du monde ou de connaissance du monde. Une mise à distance qui relève également d'une mise à distance ironique. Et Didier, tout à l'heure, on parlait un peu de ton rapport au fait anthropologique qui, toi, te permet de déplacer le point de vue usuel de l'artiste ou de...
Oui, enfin, le problème, c'est... Enfin, le paradoxe principal, c'est le rapport à la connaissance. C'est un, enfin, on part d'une, enfin, d'une civilisation savante, enfin, d'une culture savante. Enfin, c'est ça le problème. C'est un point de vue... Enfin, je vois pas les Navarros venir faire une étude sur comment je vis à Trembly, enfin, si je bois du Beaujolais ou à quelle heure, je sais pas.
Les bon. Navarros, ça existe.
Oui, enfin bon.
C'est une anthropologie africaine à Paris. Hein.
Mm-hmm. D'accord.
Ah oui, oui.
Enfin bon, quand même globalement,
c'est quand même,
dans le sens.
Donc c'est un peu le truc où on est un peu pris dans, enfin on tourne un peu en rond quand même dans, on est pris un peu dans, oui, dans un phénomène, enfin un peu de miroir en même temps, parce que.
Est-ce que
pardon, c'est peut-être, enfin. J'aime bien ton idée de tourner en rond, parce que du coup, ça nous ramène à la question de, finalement, de la globalité de ce rond. Hein.
Oui.
Moi, je sais que, en voyageant comme ça, très souvent, j'absorbe des choses qui sont restituées parfois bien après. Ce qui est intéressant, c'est quand justement il s'agit je pense à une pièce que, par exemple, bon, parce que c'est comme ça, c'est, vous me citez la pièce que j'ai construit un astrolabe avec des boîtes, enfin des bassines en plastique que j'avais repérées au Mexique. Donc, l'objet même qui sert à la connaissance pour le voyage, refait avec le matériau là-bas et devient complètement inutile. Enfin, tu vois, ça devient un truc, comme tu dis, ça tourne en rond, mais...
Oui, je me demandais en vous écoutant et en réfléchissant si finalement la question c'est moins de dresser un parallèle entre les pratiques artistiques ou anthropologiques ou d'imposer une sorte de lecture anthropologique de l'art ou d'imposer, enfin je dirais, une sorte de prise de l'anthropologie sur la question de l'art, que plutôt que cette question de circulation des signes, généralisée des signes, des significations, ces transferts culturels qui apparaissent dans certaines... Moi je pense par exemple à ton œuvre qui est sur le plan anthropologique ne peut pas fonctionner, mais qui en même temps témoigne d'une sorte de recyclage permanent des signes tels qu'on les perçoit, tels qu'on les trouve. Est-ce qu'il y a ça dans ce... Est-ce que le fond, le cœur de ce nuage anthropologique, comme on l'a intitulé jusqu'à présent, n'est pas là, dans cette circulation généralisée des savoirs, des connaissances, cette réappropriation des gestes voilà.
Oui, il y avait un temps, mais je prends le micro. Oui.
Ouais.
Non, vas-y.
Justement, c'est pas mal parce que ça nous permet d'enchaîner sur l'idée d'appropriation. Bon, chacun ici a un rapport bien différent et peut-être aussi à des points communs sur son rapport à l'anthropologie. Je voulais peut-être finir sur Didier. Ce qui m'intéressait aussi, c'était comment le titre des jeunes travestis avait vu le jour à travers Les Grands Travestis, qui est une œuvre précédente. Les Grands Travestis venant... C'est le contraire, hein, mince.
grands travestis sont venus après.
Ah, les grands travestis sont venus après. Mais donc, si j'ai bien compris, les grands travestis aussi avaient un rapport avec les grands hommes à un certain moment.
Oui, mais c'est télescopé.
Voilà, mais les grands hommes, la production des grands hommes étant le titre d'un livre de Maurice Godelier. Et Maurice Godelier étant quelqu'un, enfin un anthropologue, dont tu as fait peut-être que tu as découvert, je ne sais pas, au cours d'une émission radio France Culture. Donc ce qui moi aussi m'intéresse, c'est comment les choses circulent aussi dans la pensée et passent d'une œuvre à l'autre. Et c'est pour ça que je voulais attirer aussi sur l'idée d'une appropriation qui peut...
Je ne sais pas si on peut parler d'appropriation.
Non, là, dans ce cadre-là, non, mais d'une certaine inspiration extrêmement libre qui permet de rebondir d'une chose à une autre et qui donne un rapport peut-être à l'anthropologie qui est assez distancié finalement, mais qui moi m'intéresse par rapport à ce que... comment j'ai conçu cette exposition et comment un titre comme ça a pu générer peut-être, enfin en tout cas est venu à un certain moment en écho à l'exposition, mais avec lequel je garde beaucoup de distance. Donc c'est plus à un moment donné une inspiration peut-être presque plus poétique finalement par rapport à l'anthropologie.
Ah oui, complètement, oui.
Parce que je ne sais pas, par exemple, quel est ton rapport avec Maurice Godelier ? Enfin, je veux dire, à un moment donné. Et à ce livre qui s'appelle La production.
C'est vrai quand même. Non, ben oui, voilà. J'ai découvert une émission de radio, puis voilà, quelques lectures, enfin, ouais. Sans plus, parce que j'ai senti quelque chose, enfin, je ne sais pas, il y a eu un écho, comme ça, quelque chose qui. Je me suis senti intéressé par ça. Façon dans son histoire à lui où il racontait qu'il avait fait une agrègue de philo, qu'il était dans la philo et puis que au moment de son agrègue le jury lui a demandé ce qu'il allait faire, il n'avait surtout pas de philo, donc il avait complètement fait table rase de ça et donc il est parti dans l'anthropologie, enfin donc il a bifurqué, enfin j'aimais bien l'état d'esprit dans lequel il est entré là-dedans, dans l'anthropologie. Voilà, mais autrement... De toute façon, c'est un peu comme les rapports des artistes à la sociologie ou à la philo. On risque toujours de penser que les artistes font des sortes d'illustrations de concepts philosophiques, alors que pas du tout. Enfin, je pense que les artistes, justement, s'en servent pour s'en affranchir, éventuellement, mais... et vice-versa, d'ailleurs...
Donc pour c'était un peu... Oui, tu voulais répondre quelque chose.
Faute d'être philosophe, il est devenu anthropologue. Mais je voulais réagir surtout... Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand tu parles des savoirs, enfin, l'utilisation d'autres types de savoirs, tu es tout de suite rebondi dessus. Je crois que là, il y a quelque chose de très important et qui est au centre de mes recherches en tant qu'anthropologue, mais ça va beaucoup plus loin. Enfin, je pense de même qu'être artiste, être anthropologue, ça veut dire avant tout réfléchir sur sa position dans le monde, ce qu'on peut y faire, ce qu'on ne peut pas y faire, et la manière de le penser. Je pense que là, tout individu dans ses disciplines respectives essaye de faire à peu près la même chose. Et donc, au niveau des savoirs et de la production des savoirs, je crois moins dans mon travail d'anthropologiste. Ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est de montrer que des savoirs et de la production des savoirs et des connaissances, il en existe partout, sous des formes extrêmement différentes, mais qu'il y a certaines connaissances et certains savoirs qui sont dominants par rapport à d'autres. Et là, on rejoint aussi beaucoup le système de l'art contemporain, où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de productions artistiques, très diverses, et il y en a certaines pensées, manières de penser l'art et manières de le produire qui dominent par rapport à d'autres. Sont-ils meilleurs ou moins bonnes ? Là n'est pas la question. Et c'est aussi ça que l'anthropologie aide, je crois, à comprendre. Ce n'est pas la hiérarchisation vers une hiérarchisation des savoirs qu'on doit se tourner, mais peut-être vers la déconstruction de cette hiérarchie existante. je crois que là vraiment on se rejoint énormément les
autres. Ça me paraît clair. Oui. Juste, il y a quand même quelque chose qui me semble important dans tous ces savoirs, c'est qu'il, vous l'avez dit, hein, c'est qu'il faut à un moment ou à un autre les formaliser. Et peut-être les différences sont principalement là. Alors, s'il y a du disciplinaire chez l'artiste, c'est peut-être dans ses outils. Hein. C'est ses pinceaux qui sont mauvais. C'est pas lui. Mais, oui, enfin, donc la question de comment est-ce qu'on met en forme, quoi. Et de fait, mettre en forme une exposition, mettre en forme une œuvre, après, justement, comment vont s'établir les passages, finalement les hiérarchisations d'une certaine manière.
Moi je voulais un peu faire appel à ce livre que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Contemporary Art and Anthropology, de Arne Schneider et Christopher Wright, et qui sont eux-mêmes donc des anthropologues qui se sont intéressés à l'art contemporain et aux pratiques de l'art contemporain, et qui ont essayé de savoir comment l'une et l'autre discipline se croisent, comment les artistes s'intéressent à l'anthropologie et comment l'anthropologie s'intéresse aux artistes. Et de manière assez concrète, si je puis dire. Et il y a tout un chapitre sur l'appropriation. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'il essayait de se calquer sur quelque chose qui a été mis en place par Rosalind Cross, qui parle à la fois des soft et des hard primitivists. Et il y a donc la soft appropriation ce sont des artistes finalement qui sont inspirés par un certain type de forme, de symboles et d'apparence visuelle d'objets anthropologiques et donc d'une certaine esthétique. Et puis de l'autre côté on a la hard appropriation qui est plutôt une sorte de recréation de rites indigènes, de quelque chose qu'on assume de manière personnelle, un grand intérêt pour un contexte culturel et qui pourrait être personnifié par Joseph Beuys, par exemple. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il finalement il dénonce un certain nombre d'artistes dont la compréhension d'une culture ou d'une société finalement n'est pas leur but, mais qui jouent juste avec les formes et qui évidemment ces formes sont complètement vidées de tout sens anthropologique. Mais je pense que la plupart des artistes ici présents, et de la même manière que moi j'ai formé cette exposition, nous avons plutôt, on pourrait dire qu'on a plutôt opté pour une manière plutôt superficielle, puisqu'il peut aussi y avoir des formes, des couleurs, un titre, un rituel qui a été ingéré, si je puis dire, pour en faire autre chose. Et sans forcément s'impliquer personnellement dans l'histoire d'une communauté et de la recracher, finalement. Donc je me disais, est-ce que ce n'est pas plutôt ce qu'on fait d'une appropriation, puisqu'ici, il y a quand même des choses très clairement visibles au niveau des formes lisibles et définissable, est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on fait d'une appropriation qui est important, donc le résultat plutôt que la nature même de l'appropriation. Et je voulais un peu m'intéresser à ça pour essayer de comprendre pourquoi cet anthropologue dénonçait ce type d'appropriation qui selon lui était complètement superficielle et à jeter. Donc je sais pas, toi tu me disais que ça pouvait venir de l'histoire même de l'anthropologie.
Oui, moi j'avoue ne pas avoir eu le temps de plonger complètement dans cet article, mais je pense que si on s'intéresse juste au terme donc de superficiel et de d'en profondeur, je pense que l'erreur tout de même de ce questionnement. Enfin, là où il peut, où effectivement en tant qu'anthropologue ça peut poser un problème, c'est si cette appropriation superficielle va dans le sens des clichés véhiculés par la société et dans le sens de clichés qui sont éminemment nocifs pour ceux qui ont été appropriés. Mais au-delà de ça, je ne pense, je pense pas que cette différenciation soit, soit vraiment légitime. Non, je pense que surtout dans des questions comme le rapport au primitivisme, le rapport aux cultures qui sont soi-disant en train de disparaître ou des choses comme ça, l'attention de chaque individu, de même que des artistes, c'est justement de ne pas tomber dans ces clichés, de ne pas tomber dans la hiérarchie qui est aujourd'hui établie. Mais moi, je n'irai pas du tout dans ce sens. Dans ce sens-là, chacun a le droit d'avoir l'appropriation qu'il veut. Bon, ça, c'est mon c'est une opinion personnelle.
Personnellement, j'aime mieux les locataires que les propriétaires. Voilà. Donc, les appropriations, d'où qu'elles viennent, si elles doivent durer, si elles font œuvre. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Donc, c'est tout. Hein. J'aime pas. Non, je suis pas sûr que ce soit le bon mot parce que.
On parle de ce texte-là.
C'est peut-être celui qui l'utilise, mais il faudrait arriver à sortir de ce rapport comme ça.
Ouais, tout à fait.
On voit des choses toute la journée. Est-ce qu'on se les approprie? Non, on les voit. On travaille avec. C'est capillaire la perception. Enfin, on n'est jamais en train de dire. Ça, mais, ici, enfin, je ne crois pas que ce soit une attitude d'artiste, sauf quelques postes champions mal lunés. Mais
ça, je pense que ce débat-là a vraiment cours au sein de l'anthropologie et beaucoup moins au niveau de l'art contemporain. Ouais. C'est ça la difficulté aussi du dialogue, qu'on a chacun aussi nos priorités. Et là.
Pas d'emprunt, non.
Mais c'est. Enfin, je pense qu'au niveau de au niveau de l'anthropologie qui essaye de traiter de l'art contemporain, la problématique, en fait, se trouve au niveau de la contextualisation de ces œuvres. Et des œuvres venant de. Même culture, c'est difficile à utiliser. Non occidental, c'est impossible à utiliser. Enfin, tous les termes, enfin, on voit à peu près de quoi on veut parler. Ce qui ne provient pas d'Europe et d'Amérique du Nord. Quel type de contextualisation, quel type de présence ces œuvres ont dans le contexte de la scène internationale de l'art contemporain. Et
Oui, mais enfin, il me semble que ce serait intéressant quand même de savoir quelle présence ont ces œuvres dans la cuisine des gens qui les font. C'est-à-dire que quand même, il y a les artistes du monde entier travaillent, ils testent d'abord leurs pièces, ils la montrent à leur copine, ils la mettent dans la cuisine, elles traînent à l'atelier. Enfin, je veux dire, si ces pièces ne deviennent que des pièces pour l'art contemporain, j'imagine que vous avez un problème. Mais si ces pièces sont aussi fonctionnelles dans une culture locale, ce serait peut-être pas mal de la vérifier avant de voir ce que ça devient sur le plan international. Moi, je ne suis pas sûr de reconnaître une œuvre d'art dans la cuisine d'un là-haut. Et peut-être ça sera la même que cet artiste là-haut montrera dans un musée. Hein. Donc,
bien sûr. Mais le problème se situe en fait au niveau du droit de cité d'un certain nombre de productions dans ce qui aujourd'hui appartient au plus haut de la hiérarchie. Mais ça ne concerne uniquement ça. Ça ne concerne pas le fait qu'il y ait possibilité de produire à tel ou tel endroit.
Non, mais dans le fond, est-ce que j'ai été un peu sévère? Est-ce qu'il y a une grande différence entre faire une étude, je dirais, d'économie du marché de l'art et une étude d'anthropologie du marché du monde de l'art?
On revient au début du débat. Il s'agit d'un point de vue aussi. Il est peut-être un peu plus aisé pour un anthropologue du fait de la discipline elle-même d'essayer de sortir de ses protocoles justement et d'essayer de percevoir les catégories mises en place par les acteurs eux-mêmes et pas seulement par rapport à ce qui est considéré officiellement comme étant.
Oui. Mais ça devient beaucoup plus compliqué.
plus riche, plus riche.
Est-ce qu'il y a des premières réactions, des questions par rapport au champ énorme que l'on a abordé ce soir? C'est l'échelle du monde à Montreuil. C'est vrai, c'est bien. Non?
Je voulais peut-être parler dans son livre Alban Bensa, La fin de l'exotisme, donc, qui est un essai d'anthropologie critique, donc, qui un peu essaye de. Qui pour moi m'a beaucoup rafraîchi sur l'anthropologie aujourd'hui. Parle d'un livre de Patrick Williams qui s'appelle Nous, on n'en parle pas, les vivants et les morts chez les manouches. Et qui défend ce que lui appelle une ethnologie mimétique, qui est effectivement un style d'écriture qui peut donner des clés quant à l'appréciation d'une société, finalement. Et finalement, je me disais, est-ce que les œuvres d'art, les films, les sculptures, les photos, donc peut-être une anthropologie visuelle, je ne sais pas, qui est également le produit d'un style et d'une interprétation personnelle, pourrait être à même de donner une certaine vérité quant à l'étude d'une société. C'était une question que je me posais personnellement. Je ne sais pas si tu réponds, si quelqu'un veut répondre à ça. Ben, l'idée, si tu veux, c'est que... Enfin, je ne sais pas si je dois répéter ou si... Personne n'a compris. Donc, autrement...
Une production de vérité.
Oui, c'est-à-dire que au lieu de parler de manière... Parce que finalement, en anthropologie, pendant longtemps, on s'est dit qu'il faut le moins possible s'impliquer et être le plus possible objectif et observateur. Donc, il y avait une sorte d'écriture au présent... extrêmement codifié, qui essayait de se mettre le plus possible à distance sans jamais y arriver, bien évidemment. Est apparue différentes pratiques anthropologiques, de nouvelles propositions, de nouvelles possibilités d'écriture, et dont ce livre-là, qui apparemment utilise un certain style qu'il appelle ethnologie mimétique, donc qui est quand même assez clairement identifié, qui prend un certain type de vocabulaire, un certain style pour être au plus proche des manouches, finalement, de cette société-là. Et en se disant peut-être que ça peut donner des clés pour une compréhension de cette société-là. Je sais pas si... Et je me disais, dans ce cas-là, si toute production artistique et finalement le produit d'un style, de quelque chose, d'une interprétation personnelle des choses, est-ce que cela pourrait éventuellement être à même de pouvoir s'approcher ou enfin approcher une société? Enfin, c'est vraiment, c'est complexe, hein, comme ouais,
en même temps, j'ai envie de dire que c'est la question de la langue. Quand tu parles la langue d'une culture, tu en approches la vérité vivante beaucoup mieux. Et donc, c'est clair que de connaître ce qui est reconnu comme œuvre, c'est une manière aussi de parler la langue de la culture, donc de s'approcher. Mais la route est longue, hein,
ouais.
Pour l'approche. Mais oui, bien sûr, c'est un moyen, je crois.
Puisque je pense qu'en anthropologie, on a assez peu finalement... il y a une anthropologie visuelle également, qui n'est pas seulement ni écrite ni orale, puisque l'écriture est apparemment la pratique la plus reconnue, la plus courante. La pratique orale tend à se développer, apparemment en tout cas est un peu revendiquée comme étant possible et intéressante, une autre voie possible. Et il y a la pratique visuelle qui apparemment est quand même encore... du domaine du film, de la photographie, etc. Hein. Bon, là, on est dans quelque chose de différent. Hein,
Qui est une discipline à part entière.
Ouais, c'est drôle, ça, parce que je me souviens, effectivement, dans les années 50, Lévi-Strauss disait, non, il n'est pas question de faire de l'anthropologie avec de la photographie. Non, clairement. Et on voit Lévi-Strauss publier des bouquins maintenant en 2000. Des photographies qui ne pouvaient pas être anthropologiques, mais qui ont pu devenir des coffee table books, hein, sans aucun problème. Mais qu'est-ce qu'on apprend de fait de ces séquences photographiques?
C'est
très délicat. Hein.
C'est aussi toute la question, là encore en anthropologie, de la mise à disposition des données
Parce que qu'est-ce qu'on a dans un livre d'anthropologie ? On a un résultat. Mais il y a tout un travail qui est effectué en amont de ça, qui se déroule au niveau du contact avec les individus, du récolte de dessins, de photographies, de films, de données X ou Y, toutes celles qu'on peut trouver. Et il y a aussi toute une démarche qui s'est développée, par exemple, de Johannes Fabien, dont tu as un ouvrage ici, a fait l'expérience de mettre l'ensemble de ces données sur Internet. Donc, ce qui est pour les anthropologues une gageure assez importante et aussi une volonté de clarté par rapport au lecteur qui est loin d'avoir toujours été évidente. Je pense que là aussi, dans le texte d'Alban Bensa sur Patrick Williams, ce qu'il veut faire ressortir, c'est le fait que par l'écrit aussi, on peut faire passer un certain nombre de choses sur ce que l'on veut dire par la manière d'écrire et la manière de communiquer. Et que de même que dans d'autres domaines, les anthropologues ne sont pas à l'extérieur de l'interaction avec le lecteur. Donc c'est aussi l'intégration du lecteur dans le processus de pensée qui peut aussi amener à donner accès à ses connaissances et à permettre au lecteur aussi de se les approprier, là, pour le coup.
Oui, parce que, enfin, il me semble, tout le monde fait des expériences, que ce soit les anthropologues, les artistes ou les scientifiques, etc., compile les résultats de ces expériences, et il se trouve que habituellement en science, on fait une communication de ces résultats. On exploite, enfin, on pose le protocole, on communique le résultat, éventuellement on fait des. Comment ça s'appelle des graphes, enfin bon.
En anthropologie, il n'y a pas de protocole qui est exposé.
Le protocole n'est pas exposé nécessairement.
Non.
On donne les résultats quand même d'une expérience. Mais ce sont les résultats. Alors que l'artiste, à mon avis, il fait quelque chose d'un peu différent. Il fait des expériences comme tout le monde. Il compile des résultats. Mais je dirais qu'ensuite, il les rend à nouveau sensibles. C'est-à-dire que si les résultats l'amènent à une forme conceptuelle ou à des formes distantes de la réflexion, il faut ensuite qu'il réincarne tout ça, de façon à produire des objets qui vont permettre l'expérience de l'autre, plutôt que donner le résultat de la mienne. Et c'est ce passage, à mon avis, quand on essaye de rendre l'expérience sensible à l'autre, qu'on est artiste. Mmh. Autrement, on est effectivement peu ou prou chercheur. Mmh. On va jusqu'à restituer les résultats de l'expérience. Mmh. Maintenant, ils peuvent se reconstruire. Mmh. Et au mieux, ça se reconstruit de manière réflexive. C'est-à-dire que l'objet construit rend compte de ce retournement. J'ai sous les yeux la pièce de Sarkis, là, que je trouve. On parlait d'appropriation, pour le coup, il y en a vraiment là. Il y a aussi bien la réappropriation culturelle que naturelle. Mais au bout du compte, le geste qui fait, c'est celui qui soude, hein, c'est celui qui rend visible cette appropriation. Et voilà, donc dans le fond, cette pièce, elle est fonctionnelle partout, je pense. Hein. Parce que justement, ce qui l'amène, c'est cette visibilité de la. Les avoir mis ensemble. Il met la colle.
Non, ce qui est drôle, on est vraiment dans le système subjectif, alors que, bon, on serait plutôt dans l'objectivité. Ce qui est plus drôle, oula, non, mais attends, laisse-moi finir, justement. Ce qui est drôle aussi, c'est que tout se nourrit d'objectivité, et vous de subjectivité aussi, enfin bon. Et ça, c'est assez drôle. Mais. En fait, je suis en train de réfléchir, je ne connais pas d'anthropologues qui ont écrit sur des artistes, mais comme ça. Il y a des gens qui ont fait vraiment écrit sur des œuvres particulières, ou je ne sais pas.
Oui, mais il y a un certain nombre d'ouvrages sur la question, mais on peut recommuniquer ensuite les titres sans aucun problème. Je crois. Mince, je voulais réagir à. Ce que tu disais à l'instant, et ça m'a
stiflé.
Voilà, c'était. Bon, je suis désolée, ça me reviendra.
ça... Non, la subjectivité enfin, est sortie d'une oreille.
Non, mais je dirais pas qu'on soit dans la subjectivité. Hein. Il y a beaucoup d'objectivité dans cette manière de restituer le résultat des expériences sous forme sensible. Hein. Pour reprendre Sarkis, je veux dire, sa colle, elle est rouge. Hein. C'est, objectivement, on sait que le rouge, ça avance, ça vient. C'est pas une couleur qui recule. Donc, quand il fait ça, il sait très bien, ce qu'il fait. Mmh. C'est pas simplement de la subjectivité. Mmh. Il y a un savoir qui s'exerce dans la restitution, quoi. Mmh. Alors ça serait intéressant, justement, de comparer ce savoir de restitution au savoir qui circule dans les sociétés qu'on est censé visiter, puisque la fin nous paye les billets.
Oui, en fait, ça serait en fait dans cette œuvre de Sarkis, je suis d'accord, ça mettre en forme en fait une sorte de d'économie esthétique qui visera proposer au sein d'une œuvre, disons, qui réagit, enfin qui se présente comme un choc de trois différentes données, une sorte d'économie de l'échange ou du partage du sensible. Ça me fait penser, là, j'avais lu un interview de récemment d'Alain Buffard, le chorégraphe que vous connaissez certainement, qui parlait de Jérôme Bell, et justement je crois que ça rejoint tout à fait ce que tu dis, puisque lui, pour Alain Buffard, est en train et discute justement de la force et en fait de la prégnance justement du régime du figurable chez Jérôme Bell. Figurable, c'est une notion freudienne à l'origine. Et voilà ce qu'il dit, ce qui semble rejoindre ce que tu disais, Jean-Luc. Nous sommes bien dans cette zone-là, celle de la représentation dans un cadre défini, celui du théâtre, dont on tacte. C'est du moins le principal lieu d'exploration et de questionnement de Jérôme Bell. L'idée du figurable s'avère d'entrée précieuse pour envisager ses propositions. Le figurable est un travail qui s'organise en strates, ou en plis si tu préfères. Il creuse de la rencontre accidentelle en formant des poches de connaissances nouvelles. Ça me semblait être une sorte, en fait, de résumé, comme un autre d'ailleurs, de ce que l'on est en train de dire sur cette question, en fait, d'une herméneutique anthropologique accordée, ou en tout cas appliquée à l'art, en tout cas à la manière dont pourrait s'engager un dialogue entre ces différentes disciplines. Est-ce qu'il y a dans les œuvres de Digner, dans tes œuvres, Didier, ou dans les tiennes, puisque c'est un dessin tout à fait particulier, peut-être que tu pourras revenir sur l'origine de ce dessin, cette question-là dans une pièce donnée, de mettre un point enfin esthétique, l'ensemble de ces strates du visuel, du réel, de cette capacité, de la connaissance, etc. Comment est venu ce dessin, peut-être que tu peux...
J'ai essayé d'en faire une sorte d'archéologie, puisqu'en fait c'est un dessin qui a une dizaine d'années, hein. Je sais pas
95, ouais. Hein. Mais c'était intéressant, justement, parce que quand je t'ai demandé peut-être de me donner deux, trois clés sur ce dessin, tu m'as renvoyé le dessin en JPEG, ouais, avec une sorte de... Et tu l'as décodé, en fait.
Oui, je l'ai redécodé.
Donc, il y avait écrit, en fait, à la machine à écrire, un certain nombre de choses, un peu dans tous les sens, qui essayaient de décoder chaque signe. Donc, les petits traits rouges en bas. Tu m'as dit, la figure en bas, ça doit être la première figure dessinée. Et d'où est venue la seconde figure, qui est ce signe donc du masque, enfin, de la tête. Donc, cette deuxième figure était extraite de la première.
Effectivement, sur le dessin, il y a tout le mouvement, comme toujours, hein, depuis la page vierge jusqu'au résultat, mais il y a tout le mouvement que je décrivais, c'est-à-dire en même temps l'expérience elle-même, tout simplement, grosso modo, celle d'un corps. Qu'est-ce que ça fait, dans quoi ça passe, comment ça s'accumule, et qui, cette expérience trouvant un premier état, je dirais, de formalisation, par accumulation, en fait, par emprunt, d'une certaine manière, aussi, dépose, je dirais, dans le corps, dans le geste, dans le fait de travailler, une mémoire qui est immédiatement reprise en haut et qui est en fait une espèce de synthèse des choses qui sont en dessous. compte tenu que, la, que quand même une des questions moi, qui m'a toujours intéressé, c'est, on parlait bon, de signes et de la circulation des signes, moi je reste convaincu que le corps peut produire un signe. Et que toute l'innovation poétique, elle est justement dans le surgissement du signe du corps directement. Bon, c'est une hypothèse de travail, c'est la mienne. Là, il y en a un petit exemple de 95. Bon, j'espère que j'en ai fait des plus récents. Mais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est important qu'une pièce puisse être lisible, vraiment. Lisible au sens... moi, je sais, tu parlais de la Panacée Boys hein, tout à l'heure. Je sais que pour arriver... Tu reprends le mot, la Panacée. Je sais que pendant des années, j'ai tout simplement posé des calques sur les dessins de Boys pour les suivre du bout du crayon. Parce que je pense que ça ne se comprend pas vraiment si on n'emprunte pas le même chemin. C'est-à-dire que c'est une promenade mentale, c'est un travail de pensée qui essaye de se nouer au sens du nœud, justement. Et donc le mieux, bah, c'est de suivre, de le refaire. C'est con, hein. De refaire, alors je ne dis pas qu'il faut revenir à la nature morte sur la table et refaire les trucs, mais j'ai beaucoup appris comme ça. Parce que c'est pas toujours facile de tourner le crayon dans le sens de Boys. Et là, dans le fond, alors j'essaye maintenant, d'une certaine manière, de faire des dessins qui soient un peu comme ça, quoi, qu'on puisse qu'en les suivant, on puisse savoir de quoi je faisais, quoi.
Et de cette manière, on glisse très facilement à la sculpture. Enfin, pour moi, c'est un glissement très clair.
Ou à la danse.
Ouais. Ou à la danse. Ouais. Ouais. La troisième dimension.
Et au-delà. Là.
Je sais pas, c'est difficile. Là, on est un peu. Toujours pas de questions.
Moi, c'est une remarque.
Ouais. Non, moi, c'est une remarque pour Aurélie que je connais. J'ai vu l'exposition et en fait, moi, je voulais en tant que visiteur dire à quel point. Cette exposition représentait un espace de liberté par rapport à tout ce qu'on voit dans l'art contemporain qui va souvent vers la simplification des formes, vers des codes de représentation. Et ici, je trouve qu'on a des œuvres qui sont extrêmement ouvertes, qui échappent à des formes qu'on a l'habitude de voir, et je pense que c'est autant du point de vue des choix des œuvres que tu as faites qui sont pas représentatives du travail des artistes. Enfin, je trouve que c'est parfois des exceptions. Par exemple, Frank Scurti, c'est pour moi une exception dans votre travail. Enfin, vraiment, j'ai cette impression. Même Mathieu Mercier, quand on connaît pas bien le travail de Mathieu Mercier, enfin. Ouais. Pour vous, peut-être, ça vous semble logique, mais. Et puis, il y a des formes aussi que je n'arrive pas à identifier, comme la forme de Sarkis, cette œuvre-là, la forme de Bernard. Voilà, c'est pour moi des choses qui sont des exceptions ou des formes qui glissent, qui sont difficilement cernables. Et je trouve que c'est très très rare en ce moment, enfin, voilà, de voir ça. Ça, c'est mon point de vue de visiteur qui suis très habitué à voir des expositions d'art contemporain.
On va faire quelques compliments. Ah. Effectivement, c'est une exposition qui semble vouloir penser quelque chose. Et ça se voit. Bon, donc ça, c'est
bien. Bravo.
Non, c'est toi.
Non, puis je trouve qu'il y a.
Allez.
Non, c'est pour se flatter encore. Non, mais je trouve qu'il y a une dimension comme ça, soit par des Sarkis, Jean-Luc, etc., etc. Il y a quand même un, je sais pas, ça travaille pour jeune demoiselle. Il y a une espèce d'amateur. pas d'amateurisme, mais de, okay, il y a de l'amateur d'art.
Il y a
voilà,
d'amour,
hein,
oui. Oui, moi,
c'est assez rare, c'est... effectivement, aujourd'hui.
Pour moi, cette exposition, ça pourrait être une collection privée. On pourrait être chez quelqu'un, finalement, un petit peu.
Ah, oui, c'est un regard d'amateur, et c'est ce qui fait souvent défaut aujourd'hui, ça. Moi, je suis toujours heureux de rencontrer un amateur d'art. Je rencontre que des curateurs, des critiques d'art, des machins, des trucs. Des amateurs d'art, il y en a très très peu. Hein. L'histoire du goût, c'est un truc compliqué. Voilà.
C'est-à-dire que Allure anthropomorphe, c'est aussi ton regard à toi, qui, je trouve, justement, n'est pas codé, qui n'est... Je trouve que tu as réussi à regarder le travail d'artistes contemporains d'une autre manière. Enfin,
ouais. Bon, après, il y a une histoire de rapport au temps que moi-même, je n'ai pas réussi encore à formaliser par écrit. Je voulais créer une question autour de ça. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que ces œuvres, au fond, elles représentent forcément leur temps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut enlever à aucune œuvre, au fond. Mais il serait difficile, je crois, de les dater si on les retrouvait dans 30 ans. Puisqu'elles... Si aujourd'hui... Alors, c'est très difficile à aborder comme question, mais j'ai encore eu du mal à le mettre en place. Mais je me dis, si l'art d'aujourd'hui, l'actualité artistique pourrait... Si on a une, hein, c'est très difficile, mais enfin, si on est dans la post-production définie par Nicolas Bourriaud, ou dans l'après-esthétique relationnelle, qui pourrait cadrer les années 90, n'est-ce pas? Ou alors on pourrait être aussi dans un rapport au documentaire qui est quand même très exploité aujourd'hui par les artistes d'un autre côté, à travers la vidéo et la photo. C'est vrai que j'ai fait un choix d'œuvre qui se veut quelque part un petit peu en dehors d'un certain temps, tout en étant dans tous les temps, puisque si on reprend l'œuvre de Sarkis, on est en train de mixer à la fois un plateau indien du XXe siècle, début XXe siècle, avec un masque chaman tibétain du XIXe et de la plasticine tout à fait contemporaine. Et moi, ça m'intéressait aussi d'avoir un rapport distancié par rapport à ce qu'on peut peut-être attendre de certaines œuvres aujourd'hui dans notre milieu de l'art contemporain, encore une fois. Mais j'ai pas encore réussi bien à formaliser cette question. C'est plutôt une question ouverte.
Ce que tu voulais dire, c'est tout simplement que ça échappe à tous les éthiques et contemporains, etc. Non, c'est pas ça?
Oui.
Mais... Enfin, éthique, oui.
Une simplification qui est quand même très courante, une schématisation du sens d'une œuvre.
Mais ce rapport au temps, je le trouve intéressant justement par rapport à l'anthropologie. Et là-dessus, on peut rebondir là-dessus, puisque l'anthropologie, enfin la critique anthropologique actuelle, c'est de remettre tout en question tout ce qui s'est fait jusqu'à un temps récent. Bon, en tout cas... Pourquoi Lévi-Strauss est aujourd'hui très très critiqué, ou en tout cas un certain nombre de structuralistes, c'est que à un certain moment la dimension du temps a été mise de côté et que les sociétés ont été étudiées sans prendre en compte un certain passé historique, puisque même si les anthropologues étudient une société dans sa contemporanéité, la contemporanéité ne tombe pas du ciel. Il y a toujours un ancrage historique. Et ça m'intéressait aussi je ne sais pas s'il y a un parallèle, il y a un chemin, un pont à dresser entre ces deux choses-là, mais de comparer ce côté ahistorique très reproché à l'anthropologie, ou un discours allochronique, puisque toute une certaine anthropologie était systématiquement écrite au présent, comme si c'était quelque chose qui était valable ad vitam aeternam. Cette société est comme ça. Et un certain nombre d'œuvres ici qui prennent une certaine distance, en tout cas avec le temps. C'est vrai que c'est pas évident à formaliser, à mettre au clair. Je sais pas si.
Ouais, bon, je pense que tu l'as très bien dit au niveau de l'anthropologie. Je vais revenir. En revanche, je pense que par rapport à l'inscription temporelle de ces œuvres. Le temps, on y revient, c'est aussi une hiérarchisation des valeurs dans laquelle
telle qu'elle est actuellement pratiquée, ces œuvres ne rendent pas de la même manière que les œuvres issues de l'esthétique relationnelle, tout simplement. Mais qu'il soit difficile dans 30 ans de les dater, ça, je ne sais pas. C'est pas si sûr.
Ouais. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Annabelle. Je pense qu'il faut rendre grâce à ces œuvres et leur dire qu'effectivement, si elles émergent, c'est qu'elles émergent comme un symptôme, elles émergent dans une période donnée, elles n'émergent pas par hasard. Si elles existent, c'est pour des raisons particulières. Par contre, qu'il y a un sentiment atemporel, parce que ce sont des œuvres qui portent en elles une valeur spéculative, tout à fait d'accord. Ce sont des œuvres qui sont ouvertes, ce sont des œuvres qui interrogent énormément de choses. Mais puisqu'on parlait de cette méthodologie de commissariat, moi, je voulais peut-être que tu nous expliques quels sont les deux prochains volets de cette exposition, puisqu'elle est perçue en trois volets. On commence par l'homme nu, on continue avec deux autres volets. Peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu.
Oui, en fait, l'homme nu étant le titre chapeau de ce cycle, hein. Donc on sera toujours dans l'homme nu de toute façon. Donc non, le premier volet, c'est donc allure anthropomorphe. Le second volet, qui ouvrira le 23 avril, est intitulé Paysages visités. Et là, on sera effectivement dans un domaine de paysage et de quelque chose plus environnemental, si je puis dire. J'avais envie d'avoir une autre pratique de l'exposition, et on est plus dans le domaine de l'installation. Donc on sera face à deux univers, deux paysages bien différents, celui de Pierre Malfette, qui au cours d'une résidence au Japon a créé sa version du paysage japonais, et puis de l'autre côté le paysage de Dani Jacob, qui est une artiste allemande qui vient à Berlin, qui est dans un paysage beaucoup plus désertique et a priori même presque plus mental, si je puis dire. On sera face à face, enfin il y aura une sorte de face à face dans ces deux œuvres environnementales, avec au milieu une absence de l'homme très claire, enfin une absence physique, hein, mais en même temps extrêmement présente de par les œuvres. Et un animal qui viendra se promener entre ces deux paysages, qui sera réalisé par Alex Pollard, qui est un artiste de Glasgow. C'était un peu pour annoncer. Après, je ne peux pas tout vous dire non plus. Mais voilà. Et ça, c'est. Et après, donc, on se dirigera plus dans le troisième volet, qui est plutôt le mode de vie de l'homme. Donc, on sera plutôt dans les notions d'habitat, d'objets rituels, d'habitat, d'objets rituels, d'outillage, qui croisent un certain nombre de cultures archaïques et contemporaines. Guyane Panchal étant peut-être un artiste emblématique de cette exposition. Voilà. Pour le moment, c'est en train de se construire. Et ce qui est intéressant aussi pour moi dans ces trois volets, c'est de réinviter les artistes aussi d'un volet à l'autre, parce que je crois que c'est de toute façon leur œuvre est pertinente dans ce thème tout à fait global, et qu'il fallait le montrer à un certain moment. Donc je voulais aussi inviter Jean-Luc pour le troisième volet. On en avait parlé aussi. Mais il y a longtemps. C'était la boîte à jus. J'avais pensé à la boîte à jus. Elle est vendue. Bon. Nous verrons ça plus tard. Et donc, on en avait parlé. Oui. Et de même, Alexandra Birken, dont l'œuvre malheureusement est ici seulement en photo, est également invitée dans le deuxième volet, où elle nous présentera un paysage miniature. Donc on aura en réalité plutôt trois versions du paysage que deux. Donc voilà, et pour moi, c'est difficile d'en parler parce que déjà, ces expositions n'existent pas, mais ce qui sera intéressant pour moi, c'est le catalogue qui sera réellement le point final et le résumé de